Fait un petit marathon d'enregistrement.
Ouais, ça faisait longtemps. Bon, ça, c'est des épisodes courts.
Ouais. Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou encore un chocolat chaud avec de la cannelle et de la chantilly. Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qu'il nous plaît en toute simplicité.
Et aujourd'hui, on continue notre petite série Zapping, puisque après notre épisode précédent qui était consacré aux films qu'on avait vus en salle, notamment en janvier, et qu'on vous conseillait d'aller voir, ou pas d'ailleurs, on va cette fois-ci s'adresser à ceux qui aiment aussi se faire des petites séances de binge-watching ou de cinéma à la maison sur vos plateformes de streaming favorites, puisqu'on a un petit zapping spécial streaming.
Ouais, alors avec 90% de Netflix, donc on espère que vous ayez Netflix.
Voilà, bon, Netflix. Après, si vous ne savez pas quoi regarder sur Disney+, vous savez que vous pouvez aller écouter « Il était un plus ». Voilà, avec Charline qui vous fait des, avec sa fine équipe qui vous font des conseils sur quoi regarder sur Disney+. Donc voilà, même si on regarde beaucoup de choses sur Disney+, on veut être complémentaire.
Oui, c'est ça. Bah, là, j'avoue que j'ai failli quand même parler d'une série qui était présente sur Disney+, mais je l'ai pas finie encore, donc peut-être pour un prochain zapping.
Bah, et puis moi, là, sur Disney+, je vais commencer, je pense, pas plus tard que ce week-end, une série qui vient d'arriver. Je sais pas si on pense à la même, mais que j'ai très envie de regarder pour un certain acteur, n'est-ce pas?
Ah, bah pas même Tony. Bah c'est celle-là dont je parle.
Ah bah voilà. Mais j'ai pas encore commencé.
J'ai regardé les trois premiers. Ça y est, mais il y a 9 épisodes, mais ils sortent par lot de 3 comme Arcane d'ailleurs.
Ah, c'est cool.
Et du coup, j'ai vu que les 3 premiers.
Très bien. T'aimes bien pour l'instant?
Franchement, j'adore.
Cool.
C'est Il y a des petits passages un peu spéciaux, mais sinon j'adore. Enfin, en fait, c'est vraiment plus de 18 ans. Hein. Il y a beaucoup de scènes de nu. Et puis il y a des scènes où ils sont drogués et du coup t'es un peu dans leur tête. Donc voilà, c'est un peu what the fuck. Mais sinon j'aime beaucoup et j'aime bien la manière dont c'est filmé. Enfin, axé sur les différents protagonistes en fait, pas que sur Pam Anthony, mais aussi du coup sur la personne qui a divulgué la sextape. Non, ouais. Vraiment, c'est pas mal du tout.
Cool.
Et j'en profite, je fais un petit hors-série aussi. Dans Il était un plus, j'ai parlé d'une série, c'était un gros de mes coups de cœur, mais on n'en a pas parlé ensemble. C'est Dope Sick, avec Michael Keaton.
Ah ouais, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas regardé encore.
Ouais, j'en parle dans le dernier Il était un plus, et dans les visionnages récents. Et vraiment, pareil, j'ai adoré cette série. En plus, bah, il a gagné un prix. Et j'aime bien ce genre de contenu sur Disney+, parce qu'effectivement, c'est... Bah, c'est pas Disney, quoi, entre guillemets. Enfin, c'est Disney parce que c'est fait partie de la brand Disney, mais c'est pas un Disney comme on l'entend, dessin animé. Et d'ailleurs, je sais pas si je t'avais pas raconté, mais alors c'est sur Facebook, je crois qu'il faut que j'arrête Facebook, je comprends pas les gens qui sont sur Facebook. Mais quand ils ont fait la pub pour Pas Même Tony, il y a plein de gens qui ont commenté en disant « ça c'est sur Disney+, non mais le monde part en vrille, quoi vous osez mettre un truc comme ça, non mais où sont les Disney, non mais attendez, Disney+, vous faites n'importe quoi, je me désabonne direct. » J'ai mais enfin, heureusement que Disney+, ils font pas que des dessins animés, enfin vous avez déjà regardé ce qu'il y avait sur Disney+?
Oui, ou... c'est ça, c'est que j'ai dit, ouais, ils ont pas, suivi. Ouais. Enfin bon, bah voilà, comme ça on a fait une petite première partie Disney+.
Improvisée, finalement.
Bah voilà, moi je prends tes conseils. De toute façon, j'avais prévu au moins Pam et Tony de commencer.
Bon, bah, Sébastien voilà. Stan.
Évidemment.
Oui, il est détestable hein, dedans, tu t'en doutes. Hein.
Oui.
Mais il est beau.
Bon, passons à Netflix et toute notre sélection bien fournie de contenu... à regarder sur Netflix, pas que des trucs récents d'ailleurs, hein. on n'est pas que sur des sorties des derniers mois, mais voilà, c'est l'avantage entre guillemets des plateformes de streaming, c'est qu'on peut regarder tout ce qu'on a envie à notre rythme et puis aller chercher des fois dans dans des trucs qui sont sortis il y a quelques années pour dire tiens, ça je l'ai loupé, pourquoi pas. Et puis on retrouve des petites pépites.
Mm. Oui, et puis j'ai essayé de sélectionner, parce que moi je suis très 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 friande de toutes les séries, les chroniques de Bridgerton, Emily in Paris, des trucs comme ça, mais tout le monde connaît, Netflix parle que de ça, sur leur plateforme, sur leurs réseaux sociaux, partout, donc bon, je suis cliente de ça, je regarde bien évidemment, mais l'objectif là c'était surtout de parler de séries et de films un petit peu moins connus, pour vous faire une watchlist et pas juste regarder les tendances Netflix et en parler.
Très bien.
Donc, je commence par Self-Made, qui est une série dramatique. Alors, c'est plus exactement une mini-série, puisqu'il n'y a que 4 épisodes, mais ils durent chacun entre 45 et 49 minutes. Donc, ça reste quand même des épisodes pas super courts, mais pas super longs non plus.
J'aime bien ce format. Hein. J'aime bien ce format.
Ouais, moi aussi. 4 épisodes, 45 minutes chacun, c'est bien. Donc, la série, elle a été diffusée en 2020. Et en fait, il s'agit de l'histoire vraie de Madame C.G. Walker, qui est née en 1867 et morte en 1919, qui est la première femme d'affaires afro-américaine qui est devenue millionnaire par elle-même en vendant des produits de cosmétiques capillaires et puis ensuite en ouvrant des salons de coiffure. Et donc, c'est tiré vraiment d'une histoire vraie et plus exactement de la biographie qui a été écrite par sa petite-fille, si je ne me trompe pas. Donc l'héroïne, elle est interprétée par la fantastique Octavia Spencer, que vous connaissez forcément de La couleur des sentiments, Les figures de l'ombre, La force de l'eau, enfin voilà, c'est quand même une grande actrice, donc j'étais hyper contente de la voir là-dedans, et du coup, je pense que c'est ça qui m'a attirée au départ. Et je regrette pas, parce que j'ai beaucoup aimé cette série. En fait, elle représente vraiment l'American Dream, tu pars de rien et tu finis millionnaire. Mais en fait, comme c'est une femme noire, du coup, l'héroïne, ça y parle aussi d'esclavage, d'émancipation, de racisme, d'entrepreneuriat, de féminisme, parce que déjà entreprendre quand on était un noir à l'époque, c'était pas ça. Quand on était une femme, encore moins. Des relations avec ses maris qu'elle a eus, enfin vraiment, c'est hyper intéressant. Donc tout ça se passe au début du 19e siècle.
20e.
C'est 20e, enfin au début du 20e siècle. C'est une série courte. Comme je vous l'ai dit, donc je recommande vraiment d'y jeter un œil. Et petite anecdote, j'ai découvert en préparant cet épisode que LeBron James, il faisait partie des producteurs délégués. Et donc ça m'a assez intriguée, je trouvais ça marrant à citer, voilà.
Non, ça me donne envie, parce que l'histoire en elle-même est, je pense, intéressante. J'aime beaucoup Octavia Spencer, évidemment. Puis comme disais, moi qui est pas une consommatrice aussi... qui consomme peut-être un peu moins de format série, quoique ça dépend des moments. 4 épisodes de 45 minutes, ça me semble bien. Alors moi, je vais vous parler d'un film Netflix qui est sorti en novembre 2019 et qui, je pense, à la surprise de personne. Est totalement un film dans mes goûts, puisqu'il s'agit de Le Roi, avec Timothée Chalamet. Donc, un film totalement dans mes goûts, mais j'ai quand même mis 2 ans à le voir, je ne sais pas pourquoi. Plus de 2 ans à le voir, c'est peut-être après Dune où j'avais envie de revoir plus de Timothée Chalamet, je me suis regardé Le Roi, je pense que ça doit être lié. Donc, Le Roi, c'est une adaptation, en fait, de Shakespeare et plus précisément de 2 de ses tragédies sur la royauté britannique, sur Henri IV et Henri V. Donc on est au XVe siècle et on suit en fait l'accession au trône du jeune Henri V d'Angleterre, dit Hal. Donc voilà, avec un fond d'intrigue shakespearienne, de guerre avec la couronne de France, de trahison, de réflexion philosophique sur le pouvoir, enfin voilà, tout ce qu'on aime bien dans Shakespeare, dans ce type de Shakespeare. Et moi, ce que j'aime bien dans ce film, évidemment, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance visuelle aussi, c'est très gris, c'est très boueux, il y a des armures, il y a des duels d'épées, ça me plaît bien. Et surtout...
C'est étonnant.
De quoi ?
C'est étonnant.
Ouais, hein, surprenant. mais vraiment, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le personnage de Hal, donc interprété par Timothée, parce que c'est vraiment une exploration de ce personnage, de son évolution, parce qu'en fait, il change beaucoup, en fait, entre le début et la fin du film. Au début, c'est un espèce de prince un peu dépravé, quoi, et puis au moment où il se retrouve, héritier et à devoir prendre la suite de son père, en incarnant ce rôle de roi, il est obligé de complètement changer et il change aussi sa relation aux autres. Et en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est l'exploration de toutes les facettes de ce personnage et du coup de toutes les différents rapports qu'il a avec les personnes autour de lui, que ce soit de ses amis, que ce soit son frère aussi, il a une très, très belle relation avec son frère, son père, relation difficile, ses conseillers, etc. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien écrit, parce qu'évidemment ça reste un peu dans du style très shakespearien, et voilà, c'est un côté sombre, psychologique, alors du coup peut-être un peu aride pour certains spectateurs, hein, il y a beau y avoir un peu de guerre, un peu de combat, d'épée, de trucs, un peu de suspense, ça reste des trahisons, etc. C'est pas Game of Thrones, quoi. C'est un peu plus aride que Game of Thrones, quoi. Et j'aimerais juste mettre un bémol que je peux pas passer sous silence. Il y a pas que Timothée Chalamet dedans, il y a un autre acteur que j'aime beaucoup, Robert Pattinson. Sauf qu'il incarne le dauphin, donc l'héritier de la couronne de France, qui est donc le chef de l'armée contre lequel Timothée se bat. Et en fait, Robert Pattinson a pris un espèce d'accent français, le pire accent français que j'ai jamais entendu dans un film. Mais... c'est dire, parce que quand même, des accents français pourris dans des films américains, on en a quand même un paquet. Là, c'est vraiment affreux. Et en plus, du coup, certes, on comprend qu'il veut rendre ce personnage... complètement taré, un peu cinglé, et c'est un vrai antagoniste pour le héros, quoi. C'est vraiment l'ennemi, voilà. Mais c'était vraiment ridicule, quoi, les scènes, voilà. Bon, surtout les premières scènes, après, ça s'arrange un petit peu, mais voilà. Donc, ça peut être un argument pour vous motiver à le regarder, pour voir la prestation de Robert Pattinson avec son magnifique accent français. Mais voilà, c'est un peu... un peu bizarre au milieu de ce film, qui est quand même assez sérieux, quoi. Voilà, je conseille Le Roi pour ceux qui aiment ce genre de film. Après, si vous n'aimez pas ce genre de film, ça ne va pas vous réconcilier avec ce style.
Je ne sais plus pourquoi, je l'ai mis dans ma liste au tout début quand il est sorti. Peut-être pour Timothée Chalamet, d'ailleurs. Mais j'avais lu des critiques assez négatives, du coup, je ne l'ai pas vu. Donc, tu me tentes de le revoir. Enfin, de le revoir. De le remettre dans ma liste.
Bah moi, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que je l'ai regardé du coup après Dune et en même temps et après avoir lu ou avoir quasiment fini le premier tome de Dune. Et bon, j'étais toujours et je suis toujours dans mon obsession de Dune, donc tout se rapporte à Dune, évidemment. Mais en fait, l'exploration du personnage qu'incarne Chalamet dans Le Roi, je trouve que ça fait vraiment un super écho à Paul Atreides et ce que va devenir Paul Atreides, en fait. Et du coup, c'est rien que pour ce côté-là, la relation d'un héritier et du pouvoir, la relation au pouvoir, etc. Je trouve que c'est deux films qui peuvent très bien aller ensemble, en fait. Donc rien que pour ça, pour ceux qui ont apprécié Dune, ça peut vous donner aussi une lecture, en fait, de ce film qui peut être intéressante. Voilà.
D'accord. Bah, moi, j'ai un style totalement différent. Une série encore, oui, je pense que j'ai plus de séries que de films. Une série encore qui n'a rien à voir avec la précédente, puisqu'il s'agit de Al-Warabi School for Girls. Je suis tombée dessus totalement par hasard. J'ai pas l'impression que ça en ait fait il y a eu une grosse pub dessus. C'est une mini-série dramatique jordanienne qui traite du harcèlement dans une école de jeunes filles et de son impact, en fait, sur l'école, sur le mental, surtout, de ces jeunes filles. Donc, en gros, bah voilà, c'est plusieurs filles qui, dans une école, se font harceler et qui vont décider de se venger. Donc, le sujet me parlait vraiment parce que, comme travaillant dans le milieu scolaire, forcément, c'est un sujet qui touche, parce que on essaye vraiment toujours de faire attention et quitte à, des fois... avoir l'impression de trop faire alors que non, c'est juste une dispute, tout va bien, je suis bien. Mais bon, vaut mieux trop des fois que pas assez. Et en fait, j'ai bien aimé l'approche, puisqu'on voit ces victimes qui se transforment en bourreaux, et ça fait vraiment se questionner sur la limite entre ne pas se laisser faire et au moment où on dépasse les bornes et où on devient soi-même, en fait, en se rebellant bourreau et harceleur. On y aborde des sujets assez importants comme les réseaux sociaux, le fait de parler, de partager avec des gens qu'on ne connaît pas, le port du voile, puisque dans cette école, bah, y en a qui le portent, il y en a qui le portent pas, et c'est normal, mais il y a tout un passage où justement il y en a une qui, pour se venger, veut diffuser des photos d'une fille qui porte le voile sans son voile. Et en fait, je trouve que c'est une série qui est assez profonde, qui m'a captivée parce que j'avais vraiment envie de savoir la suite, comment ça allait finir et comment. Et puis bon, ça a un côté aussi. C'est vrai que le drame, entre guillemets, on dit le drame fait des vues, mais c'est vrai que quand tu vois ces histoires de harcèlement, d'un côté tu te révoltes, et puis de l'autre, t'as envie de voir et de dire vas-y maintenant, venge-toi, et puis de l'autre côté après tu te dis bah non, là elle va trop loin. Et en fait, ça te fait vraiment questionner toi aussi, et puis gros gros point positif, c'est une série jordanienne, et du coup ça change vraiment d'avoir ce thème-là qui est abordé dans les écoles américaines. Et tu vois qu'ils ont d'autres soucis, d'autres problématiques. Par exemple, il y en a une, forcément son père, il veut pas qu'elle sorte, il veut pas, enfin tu vois en fait qu'ils ont des problématiques dans leur vie de tous les jours qui ne sont pas du tout celles qu'on a l'habitude de voir dans d'autres séries. Et du coup, j'ai vraiment vraiment bien aimé. Je vais faire un fact-checking en live pour savoir s'il y a une saison 2 de prévue, parce qu'il y a un gros cliffhanger à la fin. Et je crois qu'il y a pas de prévu de saison 2 parce que justement c'est une fin un peu ouverte, mais je vais vérifier. Ok, donc je viens de vérifier, il n'y a pas encore eu de saison 2 qui a été commandée, parce qu'ils attendaient de voir les chiffres. En France, ça s'est pas fait remarquer. Ouais. Bah, comme je disais, hein, je suis tombée vraiment dessus par hasard et j'ai pas vu du tout de pub. Par contre, dans le reste du monde, elle est longtemps restée la 7e série la plus regardée. Donc ça a vraiment bien marché dans le monde, pas en France, mais je pense que c'est juste la communication là qui a été très mauvaise, parce que voilà. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Ne pas avoir de saison 2, ça me dérange pas, parce que je trouve que la fin, même si t'as envie de savoir ce qui s'est passé, ça fait vraiment une fin ouverte qui te lance le débat. Et voilà, je conseille vraiment cette série, assez originale et différente, et voilà.
Ouais, non mais rien que pour le fait que des productions jordaniennes, on n'en voit pas souvent... voire même j'en ai jamais vu, je pense. C'est cool, quoi. Ça serait bien qu'elle trouve son public, quoi. En France, ça,
ouais, ça pourrait... c'est sûr. Mais elle est pas récente, hein. Je crois que elle est sortie en 2020. Enfin, si, elle est sortie en 2021. Je pense que c'est un petit peu tard maintenant, peut-être. Elle est sortie en août 2021, si je me trompe pas.
Ouais. Bah, cool. À mon tour de parler d'une série, je crois que j'ai quand même sélectionné... Ah si, j'ai sélectionné plusieurs séries, mais... Donc, une série qui, oh surprise, il y a des épées, il y a du sang et de la boue.
Waouh. C'est étonnant.
Promis, c'est la dernière dans ce style. Après, j'ai vraiment des styles totalement différents. Mais je vais parler d'une série, en fait, que je viens de commencer, alors que la saison 1 est sortie... Alors... Je crois que ça arrivait sur Netflix en 2018, mais la saison 1 date de 2015, puisqu'il s'agit de The Last Kingdom, qui est une série qui est en cours, puisque la saison 5 arrive bientôt, je crois, dans les prochains mois. Et voilà, bon, je suis loin d'avoir fini, hein, je viens juste de finir la saison 1, au moment où on enregistre, donc pour vous dire que je suis très en retard. Mais que c'est une série, en fait, que ça fait des années que je me dis « Oh, faut que je la regarde », mais parce que, j'adore Viking, et que, clairement, la manière dont c'était marketé, la manière dont c'était présenté, c'était clairement du Viking-like, quoi. Et le contexte, effectivement, c'est le même que Viking, puisqu'en fait, on est en Angleterre, encore, mais cette fois-ci au 9e siècle, et on est en plein pendant l'installation des Vikings en Grande-Bretagne. Et The Last Kingdom, en fait, le dernier royaume, c'est le royaume de Wessex, qui est en fait le dernier à résister à l'invasion, enfin en tout cas où le roi de Wessex ne continue à se battre contre les Vikings alors que les autres se sont alliés à eux. Et en fait, on suit Uhtred de Bebbanburg, qui est en fait le fils d'un seigneur saxon, mais dont le château et le père, bon, je vous spoil pas, c'est le début de la série, hein, ont été dévastés, et le père a été tué par les Vikings quand il était enfant, et du coup il a été accueilli par les Vikings, Il est grand, il a grandi en fait avec eux et a du coup arrivé à l'âge adulte est vraiment autant viking qu'il est saxon quoi. Il est vraiment un mélange des deux cultures. Et en fait, on suit du coup ce personnage qui va essayer de se venger, de récupérer son château et puis du coup se retrouver donc à la cour du roi Alfred, donc le roi de Wessex, qui est un super personnage aussi. Et voilà, donc c'est intrigue à la fois un peu politique et puis surtout de guerre à cette époque et puis tout avec un côté culturel aussi de ce choc culturel en fait entre les Vikings et les Saxons qui est assez intéressant. Donc ouais, ça m'a bien plu, même si pour l'instant je considère quand même que c'est pas du niveau de Vikings justement. Mais c'est quand même pas mal. J'attends de voir la suite. J'aime bien toute la galerie de personnages. Le héros est un peu tête à claque au début, mais finalement, je trouve qu'il y a une belle évolution, donc ça va. Mais surtout, ouais, j'ai bien accroché, notamment au personnage du roi Alfred, qui est vraiment très très intéressant. Et voilà, il y a une super musique que j'aime beaucoup beaucoup. Et voilà, j'aime bien ce genre de choses avec des combats plutôt pas mal de stratégies aussi, toutes ces histoires de stratégies, d'invasion, d'alliance, etc. Donc c'est pas mal. C'est moins hardcore que Viking, pour ceux qui n'ont pas réussi à regarder Viking parce que c'était trop violent. The Last Kingdom, c'est quand même violent. Il y a du sang, il y a des têtes qui volent, il y a des moments un petit peu... voilà, on détourne pas la tête de la violence, mais il y a pas de scène de, en tout cas pour l'instant, j'en suis qu'à la saison 1, de scène de torture comme peut y avoir dans Viking, qui sont vraiment très très difficiles à regarder. Donc si vous avez un seuil de tolérance qui vous permet pas de regarder Viking, mais que vous êtes intéressé par ce genre d'histoire, peut-être que The Last Kingdom, ça peut être plus pour vous. Mais vous vous attendez quand même à du sang, hein. C'est sanglant. Voilà.
Ok. Moi, je pense que c'est pas mon style. J'ai toujours pas vu Viking, alors qu'on me l'a vraiment beaucoup conseillé. Mais je vais finir par regarder Viking. Moi, la violence me dérange pas, mais...
Oui, okay. Et puis, je pense que dans Viking, tu peux bien accrocher aussi tout de suite au personnage principal qui pourrait vraiment te... Parce que Ragnar Lothbrok, il est juste irrésistible. Et je pense que ça peut être le genre de personnage qui peut t'accrocher, donc...
Ouais, je pense aussi.
Là, Uhtred, peut-être, je ne sais pas.
Toi, j'ai envie d'aller le googler, du coup.
Bah, entre Ragnar et Uhtred, je préfère Ragnar, hein, c'est clair. Mais par contre, ce que j'aime bien dans The Last Kingdom, qui était aussi le cas dans Viking, surtout dans les premières saisons, après c'était un peu différent, c'est que l'intrigue avance vraiment. Dans chaque épisode, il se passe plein de trucs. Et ça, c'est quand même cool, en fait, d'avoir des histoires où t'as des rebondissements dans tous les épisodes, il se passe plein de choses. Au début, à la fin des épisodes, on est toujours à des endroits différents, ça arrête pas de changer de lieu aussi, on n'est jamais dans les mêmes décors, donc c'est quand même un gros plus pour une série, parce que c'est quand même pas si courant en fait d'avoir une série aussi voilà qui met les moyens quoi, c'est pas cheap non plus hein, donc ouais
le Ragnar ou Uhtred, les deux sont pas mal hein.
Ouais. C'est un peu le même genre. Hein. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai vu Uhtred, enfin, j'ai vu les pubs pour The Last Kingdom, je suis là, oh, mais c'est vraiment, enfin, ils ont pris un sosie de Ragnar, ils se sont dit, on va faire notre truc. Mais, non, c'est quand même différent, c'est pas exactement, mais c'est quand même la même ambiance.
Mm-hmm. Alors, mon ambiance totalement différente, et je crois que c'est mon gros coup de cœur de tout l'épisode. Il s'agit d'une série documentaire, un peu télé-réalité, mais axée documentaire, Cheer. Voilà, j'en parle parce que même s'il y a pas mal de pubs qui sont passées autour de cette série, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés et qui ne la regardent pas parce que bah, c'est sur des pom-pom girls. Donc tu te dis, bon, moi les pom-pom girls, ça m'intéresse pas trop. Les séries documentaires, pourquoi pas, mais pas sur un thème comme ça. Et au final, en fait, cette série vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Voilà, je crois que j'en ai tellement parlé au boulot qu'il y a un collègue de prof de physique chimie qui s'est lancé et m'a dit qu'il avait tout regardé en 10 jours. Il m'a dit mais merci de me l'avoir conseillé, c'est vraiment trop bien et tout. Donc voilà, j'étais obligée d'en parler. Donc il s'agit d'un documentaire sur une équipe de cheerleading, alors je crois que c'est au Texas, enfin c'est aux États-Unis, qui se prépare pour le championnat national. Et en fait, on suit toute leur préparation avec des décomptes J-30, J-20, etc., J-1, etc. Et jusqu'au jour du championnat où on les suit, puis on voit s'ils gagnent ou s'ils gagnent pas. Je vais rien vous dire. Et en fait, on en apprend énormément sur le cheerleading. Moi, j'avoue que les filles qui se trémoussent avec des pompons sur les bords des terrains, j'aime bien. C'est mon truc, voilà. Je sais que les films genre American Girl, tout ça, j'étais à fond dedans. Donc c'est pour ça que j'ai regardé. Mais au final, en fait, ça n'a rien à voir. C'est absolument pas là-dessus du tout. En fait, là, c'est vraiment sur des athlètes. Ouais. Donc c'est une équipe d'hommes et de femmes qui font des figures, des saltos, ils lancent les personnes en l'air, qui tournent sur elles-mêmes, qui se rattrapent. Et en fait, les figures sont juste impressionnantes. Au niveau du sport, tu te rends compte à quel point c'est éprouvant. À quel point ça peut être dangereux aussi, ça parle pas mal du danger, des blessures, etc. Et c'est une discipline qui vraiment est une discipline très sportive et sous-cotée, je trouve, parce que même moi, la première, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais, c'est pas comme ça qu'elle se représentait dans les films, donc j'avais pas du tout cette vision réaliste de ce sport. Et donc j'ai adoré en savoir plus là-dessus, j'ai adoré aussi suivre les personnalités, parce qu'on suit, donc ça fait un peu télé-réalité là-dedans, vu qu'ils interviewent aussi les personnes, on les suit, ils nous racontent un peu leur vie, pourquoi ils se sont mis au cheerleading, l'université, etc. Mais sans que ce soit trop... voyeurisme, c'est vrai, ça fait vraiment documentaire où on les interviewe.
Oui, c'est pas mis en scène, quoi. On les suit, puis on a du face cam de temps en temps, mais...
Exactement, exactement. Et en fait, on devient vite accro parce que on a envie de les suivre eux, puisqu'ils sont très attachants, et puis on a envie de savoir, est-ce qu'ils vont réussir à faire leur routine, est-ce que qui va être pris ou pas, justement, pour faire le championnat, est-ce qu'ils vont gagner le championnat, etc. Donc la saison 1, j'avais adoré. Donc, je me suis lancée dans la saison 2 dès qu'elle est sortie, et la saison 2 est encore meilleure, puisqu'en fait, ils y traitent... de l'après-saison 1, entre autres. Donc, ils vont y parler de comment ils ont géré leur célébrité, puisque la série a fait un carton. Donc, du coup, ils ont augmenté leurs followers. Donc, ils parlent de comment ils réussissent à gérer... ils sont devenus un peu influenceurs pour certains. Donc, entre les interviews, les pubs, où ils peuvent gagner de l'argent, mais faut qu'on continue quand même à s'entraîner, comment ils gèrent tout ça. Les réseaux sociaux, avec la coach qui s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup harceler, parce que, en fait, on les voit tels qu'ils sont, donc elle va pas faire genre elle est gentille quand elle doit les engueuler, elle les engueule. Et du coup, elle s'est fait harceler, comme quoi elle était méchante, frigide, etc. Donc comment elle a géré le harcèlement après la saison 1. Il y a eu un des mecs de l'équipe de la première saison qui a été accusé, et je me rappelle, comme j'avais vu la saison 1, je les suivais un petit peu sur les réseaux, qui a été accusé d'agression sexuelle. Et du coup, dans la saison 2, ils en parlent, puisqu'on le voit au début, donc ils en parlent dès le début, que voilà, on le voit au début, on le verra pas trop, ils mettent des extraits de ce qui s'est passé, de justement, quand c'est sorti sur les réseaux, comment eux, ils l'ont appris, et il y a tout un épisode dessus qui est hyper bien fait, je le trouve très, très juste, où les victimes parlent, vraiment, je vais pas spoiler, mais vraiment, vraiment bien fait. On voit une deuxième équipe, du coup, qui est en compétition avec la première, donc qui apprend de manière différente aussi, vraiment. Et puis, il y a eu le Covid aussi au milieu, donc ils ont dû arrêter, ils ont appris que le championnat, ils continuent à s'entraîner, puis ils attendaient est-ce que le championnat va avoir lieu ou pas, du coup, on les suit sur 2 années. Vraiment, c'est une série documentaire, mais captivante, un de mes gros coups de cœur, je ne peux que la conseiller, même pour ceux qui ne sont pas fans de cheerleading.
Ah, tu me donnes trop envie. je suis sûre, je vais la regarder, parce qu'en plus, cette dimension, c'est vrai que sur le coup, je pense que j'aurais vu passer Cheer, je serais pas du tout allée voir, mais en fait, la dimension série sur le sport, suivre la préparation de compétition, j'aime bien ce genre de choses. Donc là, franchement, puis là, tout ce que tu dis sur le traitement, et puis la saison 2, ça me donne trop envie. Je suis sûre, je vais la regarder.
Bon, j'ai hâte d'avoir ton avis dessus.
Ouais. Merci pour la découverte, je pense que ça va me plaire.
De rien.
Alors, on enchaîne toujours sans transition, parce que c'est impossible de faire de transition sur nos choix. On va dire une autre série qui a un côté presque documentaire, même si c'est pas du tout un documentaire, mais ça n'a rien à voir. Il s'agit de Midnight Diner, Tokyo Stories. Donc, c'est une série japonaise que vous trouvez aussi sur Netflix. qui en fait, sur Netflix, on a deux saisons de 10 épisodes. C'est des petits épisodes, hein, c'est des épisodes de 24 minutes. Mais apparemment, c'est pas l'entièreté, parce que c'est une série évidemment qui a été produite à la base au Japon et dont Netflix a récupéré les droits de diffusion de deux saisons. Mais c'est pas. Il y en a eu plus apparemment au Japon, mais bon, on a deux saisons, quoi. Et donc, j'aime beaucoup le. Enfin, c'est mon frère, hein, du coup, que vous avez entendu dans l'avant-dernier épisode, qui me l'a conseillé, puisqu'il est passionné du Japon, il a vécu au Japon, et en fait, il me l'avait conseillé comme étant une série à regarder le soir, qui est très cocooning, enfin, qui est très pour se détendre, et qui, pour lui, en fait, ça lui permettait totalement de se replonger dans l'ambiance de Tokyo. Et notamment Tokyo la nuit, puisqu'en fait le concept c'est qu'on suit le quotidien d'un petit restaurant de nuit qui en fait est ouvert entre minuit et 7h du matin et qui reçoit en fait sa clientèle, et en fait il a qu'un seul plat à l'affiche, mais en fait sa clientèle arrive et lui demande ce qu'ils veulent, et s'il a les ingrédients il leur fait ce qu'ils veulent. Donc c'est comme si voilà, t'arrives et t'as envie de manger, je sais pas, une omelette, voilà, et ben il te fait une omelette. Et puis si t'as envie de manger du porc mariné, je sais pas quoi, et ben il te fait ça. Enfin, et du coup c'est vraiment cette ambiance en plus de nuit avec ses clients. Donc il y a certains clients récurrents qu'on retrouve un peu dans tous les épisodes ou régulièrement dans les épisodes. Donc et puis il y a dans chaque épisode un nouveau personnage avec une intrigue, une petite histoire, donc c'est des mini-histoires hein, en 20 minutes, différentes. Et du coup, c'est toujours des personnes qui sont un peu toujours à côté de la plaque. Enfin, c'est toujours des personnes qui ont des côtés presque un peu bizarres. Enfin, en plus, quand je dis ça à la japonaise, donc nous, on a en plus ce décalage un peu culturel où il y a des trucs qui peuvent nous paraître bizarres, qui sont pas forcément bizarres pour eux, mais voilà. Mais ils sont quand même tous un petit peu, on les sent un peu à côté de la plaque. Mais ils ont toujours surtout des histoires qui sont assez émouvante. Enfin, il y en a qui m'ont vraiment vraiment émue, d'autres qui m'ont plus fait rire ou qui m'ont mis mal à l'aise. Mais tu sais, c'est des mal à l'aise qui sont pas forcément désagréables. C'est juste genre, oh là là, c'est un peu malaisant, mais c'est drôle, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Ouais, je vois.
Souvent dans le côté japonais aussi, c'est ça. C'est un humour un peu malaisant, mais qui, enfin, tu peux pas t'empêcher de rire et tu te dis ah, c'est marrant quoi. Et donc c'est vraiment complètement ça. Et voilà, du coup, je trouve vraiment cette série très très mignonne. Et puis surtout, cette ambiance du petit resto qui est très très cosy en fait au final. Et puis avec surtout le personnage récurrent qui est le cuisinier, le propriétaire cuisinier du resto, qui est assez, il parle pas beaucoup, mais en fait on sent qu'il est très attaché. Enfin, il est très chaleureux en fait. Et je sais pas, c'est une personnalité très apaisante, je trouve. C'est un petit côté ASMR, en fait, cette série. Et ouais. Et puis, en plus, si jamais vous vous intéressez un petit peu à la culture japonaise, je pense que c'est vraiment un très, très bon moyen de découvrir des aspects qui sont beaucoup moins mainstream, de personnes, du quotidien de personnes. C'est très réaliste, je pense, même s'il y a des côtés un peu absurdes, parfois. Mais ça fait découvrir des pans de la société qui sont beaucoup moins mis sur le devant de la scène d'habitude quand on parle du Japon, donc et de problèmes de société au Japon qui sont enfin, ça apporte plein de petits problèmes de société en fait aussi qu'il y a au Japon qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en fait dans les médias, donc ouais, rien que pour ça aussi, pour le côté culturel, c'est intéressant, donc voilà.
Ouais, ça me tente bien aussi, ça. C'est marrant parce qu'on a trouvé des films ou des séries que chacune on n'a pas vu.
C'est ça. Ben ouais, on a pas en commun, je crois.
Si.
Ah si, 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 il y en a un en commun.
presque pas. J'ai toujours pas été jusqu'au bout. Bon, on en parle après. Ouais, je sais, honte à moi. Mais non, ouais, ça me tente bien, ça. Je pense que, pareil, je vais me le mettre dans ma liste, qui ne fait que s'agrandir.
Mais vraiment, c'est une série que je conseille de regarder le soir, en fait, pour se mettre vraiment dans cette ambiance, voilà. Mm-hmm. C'est l'ambiance de soirée, quoi. Je sais pas, mais c'est pour se poser, voilà.
Ok. Et le prochain film, tu l'as pas vu, toi ?
Non, je l'ai pas vu. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai pas vu.
Ah oui. Alors, c'est un film qui était sorti au cinéma en 2018, et du coup, 3 ans après, il arrive sur Netflix. Et c'est marrant parce que, comme on en parlait pour le monde de Marwen, bienvenue chez Marwen, bienvenue à Marwen, je vais y arriver. Pareil, je l'ai vu, j'ai l'impression que c'était il y a un an au cinéma et j'étais trop contente de le revoir sur la plateforme, mais j'ai pas eu le temps de le revoir. Donc il s'agit du film Scheherazade, qui est un film français écrit et réalisé par Jean-Bernard Marlin. Alors, sur de quoi ça parle? Bah, d'une histoire d'amour entre deux jeunes, l'un qui sort de prison et l'autre qui se prostitue à Marseille. Voilà. C'est très gai, très joyeux. Non, vous aurez compris que c'est assez poignant, que ce film, il m'a complètement retournée, mais je l'ai trouvé hyper bien fait, très vrai. Et très vrai, on comprend pourquoi, puisque le réalisateur, en fait, quand il a fait son casting, il a cherché justement des jeunes en foyer, déscolarisés, qui sortaient de prison, etc. Et donc, l'acteur principal, Dylan Robert, a été informé du casting par son éducatrice à sa sortie de prison. Je crois d'ailleurs qu'il y est retourné depuis, malheureusement, et oui. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est ça pour vol, je crois.
J'ai passé cette semaine, ouais.
Ouais, ouais. C'est vraiment triste parce que en fait, il avait gagné le César du meilleur espoir masculin, donc voilà, une belle carrière s'offrait à lui. Et puis l'actrice féminine, pareil, elle a été déscolarisée et c'est sa mère qui avait trouvé le casting et qui a envoyé sa photo. Donc c'est Kenza Fortas qui a également gagné le César du meilleur espoir féminin. Et le film a eu le César du meilleur premier film. Donc voilà, un film assez récompensé. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé parce que ça m'a retourné et en même temps, j'ai trouvé la fin très satisfaisante. J'avais vraiment peur de pas aimer là où ça allait en venir, en fait. Mm-hmm. Mais j'ai bien, je voulais pas que, je veux pas spoiler, mais je voulais pas que la fin soit horrible et je voulais pas non plus que la fin soit tout est bien qui finit bien parce que, vu le scénario, c'est pas possible non plus, quoi. Et la fin m'a plu, ce qui était très rare, ce qui est rare, voilà. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, je ne peux que le conseiller.
Hmm. Ouais, moi, évidemment, quand il était sorti, on ne parlait que de ça, mais du coup, c'est partie du genre des trucs où on en a trop parlé. Puis en plus, quand tu vis à Marseille et que ça n'arrête pas de parler de... Enfin, je veux dire, des films qui parlent de pas de ce genre de sujet, mais en tout cas de un côté un peu... dur socialement sur Marseille, voilà, ouais. il y en a 10 par an, quoi, j'exagère, il y en a peut-être que 3 par an, mais c'est quand même beaucoup. Et du coup, bon, Scheherazade, c'est le premier d'une série, hein, parce que il y en a eu plus après, mais du coup, je sais pas si j'ai envie de le voir, tu vois, malgré le fait que je suis sûre qu'il est bien, je suis pas sûre d'avoir envie de le voir. Mais tu me donnes,
non, je comprends.
Tu donnes un petit peu envie, rien que pour la surprise, enfin, tu m'intrigues sur le teasing, sur la fin. Coup, et c'est rassurant de dire que de s'engager dans un film où tu sais que ça va être dur, mais où tu dis que la fin est satisfaisante, et ça rassure un petit peu quand même.
Ouais. Non, en fait, moi je le conseille pas déjà si vous êtes des âmes sensibles parce qu'il est, très dur à voir. Il y a des scènes assez difficiles. Mais je trouve que l'écriture et effectivement l'interprétation de ces deux jeunes est très vraie et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je comprends hein, pour les films sur Marseille. Moi, et puis le côté où on en parle beaucoup, j'avoue que je l'ai vu la première semaine où il est sorti, parce qu'il me tentait tout de suite. Donc voilà, j'ai pas eu ce côté-là. Voilà,
c'est l'idéal hein, dans les films qui font après le buzz, etc. L'idéal, c'est de les avoir vus au début, quoi.
C'est ça. Exactement. Bon, par contre, le prochain film.
Donc le seul de la liste qu'on a presque vu toutes les deux. Alors là, je suis choquée du coup.
Ouais, je suis désolée.
Donc, bon, je pense qu'il y a une certaine team Mirandette qui attendait avec impatience qu'on en parle. Il s'agit évidemment de Tic Tic Boom, le premier film réalisé par Lin-Manuel Miranda, qui est sorti il y a pas longtemps, en fin d'année. Alors, donc c'est un film biographique et qui est aussi l'adaptation de la comédie musicale Tic Tic Boom de Jonathan Larson. Qui est le papa de Rent, hein, qui a un immense succès de Broadway. Et malheureusement, Jonathan Larson est décédé la veille de la première de Rent. Donc, c'est un brillant auteur de comédie musicale qui n'a jamais, du coup, connu le succès, au final, connu le succès qu'allait avoir Rent, qui a été un succès assez monumental aux États-Unis, même si depuis la France, ça nous semble loin. Je pense pas que Rent soit aussi connu en France que c'est connu aux États-Unis. Et en fait, du coup, Tic Tic Boom, ça suit les années de galère, en fait, de Jonathan Larson. dans les années bien avant Rent, et du coup son quotidien misérable, donc il arrive, il a 30 ans et il a toujours pas réussi à connaître le succès, et du coup on suit son quotidien de galère, mais aussi de création, de projet, d'amour, d'amitié, de musique, d'ambition, enfin tout ça, enfin c'est très très c'est très centré autour du quotidien d'artiste fauché, quoi, et dans le New York des années 90, puisque ça démarre 1990, et le tout, en fait, est porté par Andrew Garfield, donc interprète Jonathan Larson, qui est vraiment irrésistible. Moi, c'est le... Andrew Garfield, j'étais pas fan, en fait, avant Tick, Tick, Boom, et ce film m'a vraiment, m'a réconcilié avec lui, et voilà. Donc, même quand son personnage est agaçant, parce qu'il faut le dire, hein, Jonathan Larson n'est pas... a des défauts, et des défauts très agaçants, du coup, c'est un peu comme, je sais pas, comme on parlait dans le dernier épisode de film où les personnages sont pas parfaits, mais on s'attache quand même, et moi, je me suis quand même attachée, à ce personnage, notamment grâce à Andrew Garfield. Et j'ai adoré le rythme, j'ai adoré la réalisation, l'ambiance. Alors la musique, c'est pas la musique que je vais écouter en boucle, c'est pas trop mon style, mais dans le cadre du film, ça marche quand même très bien. J'ai quand même des thèmes qui me restent en tête. This is the life, bo, 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 bo. Enfin, ça passe quand même en tête, quoi. Et évidemment, c'est bourré de références à Broadway, dont facilement les deux tiers, me passe complètement au-dessus de la tête, parce que je suis pas aussi connaisseuse de Broadway que ça. J'ai repéré évidemment toutes les références à Hamilton, parce que voilà. Mais j'ai capté quand même assez de références pour que je me sente pas à côté quand même du film, et pour apprécier quand même. Et puis c'est surtout du coup l'émotion que je retiens, quoi, parce que franchement il y a des scènes où j'ai vraiment beaucoup beaucoup pleuré. L'Emmanuel Manda, il sait en fait trouver ces petits switches comme ça qui me font pleurer. c'est le cas dans tout ce qu'il fait en général, donc ça a encore marché sur moi, impressionnant pour un premier film quand même. Donc, voilà mon avis, donc explique-moi, Charline, pourquoi tu n'es pas allée au bout.
Alors, déjà je vais faire un petit coucou à Cédric qui attendait avec impatience qu'on en parle, qui ne comprenait pas pourquoi Pop T n'avait pas parlé de Tick, Tick, Boom. Mais en fait, j'ai regardé le début et j'ai pas réussi à accrocher. J'ai trouvé le rythme un peu lent, et effectivement, même si moi j'adore Andrew Garfield dès le début, et je suis d'accord que là il jouait à la perfection dans les scènes que j'ai vues, je le trouvais pas attachant, et j'avais un peu de mal. Et en fait ce rythme, tu sais, moitié scène, moitié filmé, enfin tu vois, la manière dont c'est tourné, j'arrivais pas trop à accrocher. Et du coup j'ai mis en pause, je me suis dit bon, je vais faire autre chose, et j'irai voir la suite plus tard. Sauf que j'ai toujours pas trouvé la motivation. Alors, j'apporte une nuance. J'ai trouvé la motivation il y a une semaine, quand j'ai découvert sur YouTube la chanson Thérapie.
Ah, mais oui, tu l'avais pas vu, t'étais pas allée jusqu'à Thérapie alors.
Je n'ai pas été jusqu'à Thérapie.
Oh.
Mais j'ai vu Thérapie. Et alors, j'écoute Thérapie en boucle depuis. J'adore Thérapie. Je l'ai écouté, alors je l'écoute sur YouTube, je l'ai écouté, mais de toutes les versions. La version chantée par Andrew Garfield, du coup, et... Mince, comment s'appelle l'actrice qui est hyper connue, en plus.
Mais oui.
Vanessa Hudgens, de High School Musical.
Mais qui est excellente. Voilà. Elle a pas un rôle principal, mais c'est elle qui porte les morceaux musicaux. Elle est parfaite.
Ouais, et du coup, bon, j'ai écouté sur YouTube leur version, j'ai écouté sur YouTube la version chantée par Lin-Manuel Miranda, évidemment, j'ai écouté plein de versions, et je suis totalement fan de cette chanson, et donc ça m'a donné envie de regarder la suite, mais je n'ai pas encore pris le temps, donc j'espère que je vais accrocher plus. J'ai lu sur Insta l'avis de Pixie Tubeuse, qui est une youtubeuse Disney, mais qui parle aussi de ses visionnages films, enfin elle parle un peu de sa vie, etc., et en fait elle a donné son avis sur le film, et pareil, elle a dit qu'elle a eu beaucoup de mal à accrocher et à rentrer dans le film, et que finalement, elle avait fini par bien aimer. Donc voilà, j'espère que moi c'est pareil et que je vais m'y mettre, parce que...
Ouais, non, ça vaut le coup, parce que pour moi, les scènes les plus marquantes, bon, même si j'aime bien le début, le tout début, mais les plus... Ouais, c'est la deuxième partie du film et il y a des choses, des scènes vraiment, vraiment touchantes en fait dans la deuxième partie du film et à un moment... ouais, enfin, je veux pas te spoiler, mais du coup, qui est vraiment... qui vaut le coup de... rien que pour aller jusqu'à ce moment-là. mais ouais.
Ok. Bah écoute... Je vais le regarder et on fera un update dans le prochain épisode.
Et puis j'ai trouvé aussi, et ça peut-être te motiver aussi, que du coup l'histoire d'amour en fait, qui est un des très nombreux films, mais du coup dont l'apogée est Thérapie, enfin non, c'est pas l'apogée, il y a d'autres chansons après qui sont très belles autour de cette histoire d'amour, qui est une histoire d'amour hyper compliquée du coup entre Jonathan et sa copine... Suzanne, je crois, qui du coup et cette frustration et puis du coup la confrontation de deux ambitions, etc. C'est un des thèmes qui est vraiment filé sur tout le film et franchement c'est une très très belle histoire, je trouvais. Enfin, c'était très bien traité et avec une fin qui est bah pareil, je peux pas le spoiler, mais qui... Ah, mais si je la compare à une autre histoire, ça va spoiler la fin. Donc je sais pas si je le dis ou pas.
Mais... Non, ne spoil pas.
Ouais, tant pis, je dis pas. Mais ouais, non, mais en fait, ça fait référence à une autre comédie musicale. Enfin, non, ça fait pas une référence. Il y a des parallèles avec une autre comédie musicale, voilà. Mais je ne veux pas en dire plus. Mais et j'aime beaucoup, en fait, ce type d'histoire et la manière dont ça finit. Et voilà.
C'est... Ok. Non, mais je vais le regarder, hein, c'est sûr. Mais je pense que Lin-Manuel Miranda, j'aime surtout sa musique plus que sa réalisation, hein. C'est ça. Hein.
Ouais, alors que moi, j'ai vraiment accroché. J'avais un peu peur, en fait. Hein. Je me suis dit, il n'est pas réalisateur, je ne sais pas ce que ça va donner. Et en fait, pour le coup, c'est un style que j'aime beaucoup. Là, ces mélanges, la manière dont il a mis en scène, en fait, les numéros musicaux, j'ai vraiment accroché, quoi. Mais okay. Du coup, tu n'as pas vu non plus la scène dans le café?
Si. Ah, c'est non, attends. J'ai vu une scène dans un café, mais je ne sais pas si c'est la même. Dont tu parles.
C'est une scène qui fait très Sondheim, du coup, qui fait très... enfin, je sais pas trop comment dire, mais très comédie musicale, là, pour le coup. Et où il y a, ouais, du coup, il y a plusieurs interprètes d'Hamilton qui sont dedans. Non,
peut-être pas. Alors, non, ça me dit rien. Après, j'ai vu... en fait, le jour où il est sorti, hein, j'ai vu le début. Donc, je me suis jetée dessus, bien sûr, mais...
Oui, donc ça remonte un petit peu.
Donc, ça remonte un petit peu. Mais bon, voilà, je vais me le remettre. Alors j'enchaîne sur une série. Ouais, je fais beaucoup plus de séries que de films quand même, hein, mais c'est pas grave. Qui s'appelle Toujours là pour toi. Et alors c'est une série, je l'ai pas notée, mais si je me souviens bien, qui est tirée d'un roman, The Firefly Lane. Et je crois que ça doit être le nom en anglais, Firefly Lane, quelque chose comme ça. C'est le nom de la rue de ces deux filles où elles habitaient ensemble. Enfin. Voilà. Donc en fait, ça raconte l'amitié entre deux femmes, Tully et Kate, qui sont interprétées par Catherine Heigl, qui est quand même assez connue dans le monde des séries, puisqu'elle a fait Grey's Anatomy. Je pense qu'elle a dû faire d'autres choses. Puis après, elle fait plein de comédies romantiques. Et Sarah Chalke, qui, alors pareil, elle est assez connue. Je crois qu'elle joue dans Scrubs. Voilà, ça raconte l'amitié entre ces deux femmes depuis leurs 14 ans, et en fait on va suivre trois périodes de leur vie, donc leur adolescence, enfance dans les années 70, avec justement l'une des deux qui a une enfance vraiment pas facile, et du coup comment elles sont devenues amies, leur début dans le monde du travail, fin université, quand elles démarrent au niveau du journalisme, dans les années 80, et puis ensuite les années 2000, le présent, avec Tully qui est devenue une célèbre animatrice d'un talk show, et Kate qui est elle en procédure de divorce, et puis qui essaye de concilier un peu sa relation avec sa fille adolescente, qui est pas forcément toujours facile, et sa recherche d'emploi. Et du coup la série elle est centrée sur cette amitié, sur comment justement on fait fonctionner une amitié, les hauts, les bas, c'est beau, c'est vrai, c'est touchant. Moi j'ai beaucoup aimé en fait l'originalité de les suivre sur trois périodes et d'alterner un peu ces trois périodes. Et j'ai adoré les tenues des années 70 et 80, enfin vraiment gros coup de cœur là-dessus. Donc voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais j'ai passé un très très bon moment devant. La saison 2 est en cours de tournage, et je pense que le livre doit être intéressant aussi, mais voilà. En tout cas, une bonne petite série à regarder.
Cool. Bon, je pense pas ce genre de série que je vais regarder,
non,
mais...
Non, c'est pas ton genre, ouais.
Mais ouais, non, ça... Je vois bien l'ambiance, et je pense qu'effectivement, ça peut plaire pas mal de monde.
Mais encore une fois, tu vois, pas hyper connu non plus, parce que Netflix, c'est ça le problème, c'est
non,
qu'il...
c'est vrai, j'ai entendu
parler. Ah ouais, mais faut, je fouille, en fait, je fouille le catalogue.
Alors, moi, je vais reparler d'un film, puisque vous avez compris, j'ai quand même pas mal de films dans ma sélection. J'ai plus, enfin, c'était surtout ces derniers temps que j'ai moins regardé de séries et j'ai plus regardé de films. Pour vous parler d'un petit film, enfin, petit film, non, je pense qu'il y a quand même un budget assez important, mais film, en tout cas, qui okay, est pas le film de l'année, mais que je pense est un bon film pour varier un peu dans les styles que je conseille. Là, c'est typiquement le film que vous pouvez regarder. Tranquille pour vous détendre, pour rire un coup et puis pour vraiment un moment fun. Moi, c'est un film que j'ai regardé avec ma famille pendant les vacances de Noël et c'était parfait. Donc, c'est Army of Thieves qui est donc un. Alors, apparemment, c'est un préquel de Army of the Dead de Zack Snyder que je n'ai pas vu, mais les deux sont sortis en 2021 et ils ont annoncé Army of Thieves avant même que Army of the Dead soit sorti. Donc je comprends pas trop, mais en gros c'est voilà, c'est ça se passe avant Army of the Dead que j'ai pas vu, mais qui est apparemment un film de zombies complètement débile. Mais c'est, il y a absolument pas besoin d'avoir vu Army of the Dead pour regarder Army of Thieves. Moi j'ai absolument aucune intention de regarder Army of the Dead et j'ai beaucoup aimé Army of Thieves. Donc Army of Thieves en fait ça a été réalisé par Matthias Schweighöger. Avec Matthias Schweighöger dans le rôle principal de Sébastien. Et en fait, c'est la raison principale pour laquelle j'ai adoré ce film, c'est ce type, ce Matthias Schweighöfer, qui est vraiment trop cool. Et le personnage de Sébastien, qui est vraiment hyper drôle. Et l'histoire, en fait, c'est un film de braquage. Le personnage de Sébastien, en fait, est un spécialiste de craquage de coffres. Il a une espèce de presque de super pouvoir, en fait, de comprendre en écoutant ce qui se passe à l'intérieur d'un coffre, tous les engrenages, etc. Et du coup, de savoir comment les craquer. Et il est recruté, en fait, par une équipe de voleurs, de haut vol, qui veulent craquer une série de coffres hyper durs à craquer. Et donc, il recrute Sébastien, qui est pas du tout un malfrat. Hein. Lui, c'est un passionné de coffres, mais un peu pas un geek, mais ouais, il est dans son monde, quoi. Il travaille pour une banque, en fait, à la place. Donc, voilà. Et en fait, donc, ça raconte un peu toutes les préparations des braquages et puis l'enchaînement de ces différents braquages. Et donc, quand on aime les séries de braquage ou les films de braquage, je pense qu'on peut déjà. Comme moi, j'aime bien hein, tout ce qui est Ocean Eleven et compagnie. Donc, c'est pas aussi élaboré que Ocean Eleven, tout ça, mais c'est quand même assez, assez fun. Et puis surtout, ouais, c'est très drôle, ça se prend pas du tout au sérieux, tout en ayant des personnages assez hauts en couleur, alors, pas mal de clichés, mais quand même, rien que pour le personnage principal de Sébastien, qui est complètement décalé, mais qui est très drôle, il a un rythme comique, cet acteur qui est vraiment génial. Je le connaissais pas, en fait, mais il est vraiment très très drôle. C'est un acteur allemand. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un film pop-corn quand vous voulez faire une petite soirée tranquille. Voilà, je le conseille pour ce type d'envie. Vous savez pas quoi regarder, bah regardez Army of Thieves, c'est fun.
D'accord. Pourquoi pas? Je pense que j'aurais pas regardé ça de base, mais pourquoi pas?
Bah ouais, franchement, bah en fait, on me l'a conseillé parce que je sais plus, j'ai une copine qui m'a parlé de cet acteur-là, elle me dit, ah, cet acteur est trop cool, il a fait ce film, va regarder. C'est une copine allemande qui connaissait déjà cet acteur. Et donc, du coup, je dis, bon, bah tiens, pourquoi pas. Et puis ouais, ça a plu à tout le monde, hein, mes parents, tout ça leur a plu aussi. Donc ouais. Sans prétention, mais voilà, fun.
Très bien, très bien. Alors, une série qui... française. Je crois qu'on n'a pas parlé de série française pour l'instant. Parler d'un film français. Une série française, Arte, qui du coup maintenant est sur Netflix. Mais je crois que la saison 2 est encore sur Arte d'ailleurs, si vous n'avez pas Netflix. Qui a été conseillée par une amie. Alors, je pense pas qu'elle nous écoute, mais si jamais elle passe par là, coucou Marion. Qui est une série comique. Vraiment très 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 drôle. Après, faut aimer l'humour un peu absurde, mais si vous aimez un peu l'humour absurde, vous allez adorer. L'histoire, c'est sur les services secrets français du début des années 60. Et du coup, c'est vraiment une parodie des films d'espionnage et justement de ces services secrets français. Donc c'est... On y suit bah, le colonel...
Je crois que t'as pas
Oui.
donné le titre de la série.
Ah mince! Donc la série, c'est Au service de la France.
Ah!
Ouais!
J'en ai beaucoup entendu parler de cette série.
C'est vrai?
Ouais, énormément.
De...
Ça fait longtemps que je me dis, bah, en plus, ouais, quand elle est passée sur Arte, je sais pas, chez mes parents, quand on est toujours branché sur Arte, je voyais passer les bandes annonces, etc. Je me dis, ah tiens, un jour, il faudrait que je tente, mais...
Bah, moi, j'ai vraiment adoré, mais alors adoré la saison 1, que j'ai trouvé, mais à mourir de rire. En fait, ce côté... mais c'est vraiment loufoque, en fait. Et du coup, enfin... Il y a des passages, ouais, vraiment très très drôles. La saison 2, ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu plus... comment dire, de rajouter vraiment un scénario, une histoire en parallèle, qui... Parce que les premiers épisodes de la saison 1 sont un peu plus décousus, quoi. Qui tient la route, mais qui avance un peu plus lentement, et du coup, j'ai moins accroché, voilà, à la saison 2. Mais voilà, mais globalement, vraiment, une très très bonne série. Je pense que les séries Arte, on en a conseillé pas mal, et je vais vraiment m'y mettre, parce que, effectivement... Je pense que c'est un gage... Enfin, je vais pas dire que Arte, c'est forcément un gage de qualité, mais je pense que il y a moins de séries complètement what the fuck et complètement nulles qu'on peut trouver, par exemple, sur Netflix, qui sont là juste pour faire du remplissage, quoi.
Ouais, il y a pas de remplissage. Par contre, il y a du what the fuck, hein, parce que des fois, oui. Sur Arte, t'as des trucs, tu fais « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais ouais, non, mais je suis d'accord que c'est... Mais il y a beaucoup, enfin, souvent des séries absurdes, hein, mais de plein d'origines différentes aussi, donc du coup, c'est différents types d'absurdes, mais.
Ouais.
Mais je sais pas, dans les publics d'Arte, il y a des amateurs d'absurdes, je pense.
Oui, ça doit être ça. Et au niveau du ton, j'ai beaucoup. Alors, c'est comme ça que Marion me l'avait vendu au départ, et du coup, j'avais eu un peu de mal, parce que, en fait, ce film, je le connais pas, il me tente pas du tout. Le ton ressemblerait à OSS 117. Mais moi, comme j'ai pas aimé ce film, enfin, j'ai vu que le début, j'ai pas aimé, donc je saurais pas dire si c'est vrai ou pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu que ça revenait aussi dans les critiques en ligne, ce côté OSS 117.
Très bien. Bah, moi, j'ai vu les deux premiers de OSS 117 que j'ai plutôt bien aimé. Enfin, c'est un peu lourdin comme humour, mais bon, pourquoi pas. Mais. Enfin, j'ai pas détesté, quoi. Mais. Ouais.
Okay. Bah, là, je trouve que ça reste quand même peut-être un peu plus fin. Au niveau de l'humour, peut-être, alors. Parce que je l'ai pas... Moi, effectivement, l'humour lourd... Jean Dujardin, je le trouve lourd et il me fait pas rire du tout. Et alors que là, ouais, là, ça me faisait rire. Tu vois.
Ok. Non, mais ça m'intrigue. Bah, ça arrête. De toute façon, je sais hein, qu'au service de la France, j'aimerais bien tester un jour. Oui. Donc, je trouverai le bon moment et...
C'est ça. Autre série sur Netflix, pareil, je vais en parler très rapidement de celle-là parce que je pense que elle va avoir sa pub quand la saison 2 va sortir parce qu'elle a bien marché en saison 1, elle était dans le top Netflix. C'est Ginny et Georgia, qui est une série de 10 épisodes. C'est un genre en fait de Gilmore Girls mais dans les années 2020. Du coup, moi, je l'ai regardé parce que j'avais adoré Gilmore Girls, en fait, ce côté, enfin, axé sur la relation mère-fille, je trouvais ça intéressant. Et là, bah, c'est toujours le cas. Donc c'est toujours aussi intéressant. Là, c'est un peu plus entre guillemets axé drames familiaux et ça parle, on ne voit, enfin ça parle toujours mariage, amour, amitié, voilà, les trucs qui me captivent dans ce genre de série et ce que j'attends. Mais il y a aussi des sujets plus lourds puisque on y parle aussi d'automutilation. Il y a quand même des crimes. Il y a un petit sujet un peu plus sérieux entre guillemets derrière. Mais ça reste quand même léger, ça se regarde très rapidement, c'est que 10 épisodes. Je pense pas que toi, ce soit trop ton style, Marjo.
Ouais, mais... je pense pas, mais...
Mais je pense que dans ceux qui nous écoutent, ça peut quand même plaire. Voilà, et donc j'ai hâte d'avoir la suite.
Cool.
Et avant de passer aux autres plateformes, je voulais mentionner un film que j'ai pas trop aimé, mais j'ai envie qu'il marche.
Ok, très bien.
Ok, il s'agit de The Royal Treatment. Je sais pas si t'as entendu parler.
Je suis en train de googler là. Non.
Non. Alors, il était dans les top Netflix hein, la semaine dernière encore. En fait, c'est un film, voilà, c'est une histoire d'amour. Alors, c'est les comédies sitcom à la Netflix, hein, comme on a eu. Bah, comme on a beaucoup parlé pendant le. On a fait un top Noël, si je me souviens bien.
Oui.
Et voilà, bah, j'en ai parlé des films romantiques Netflix. Bah là, c'est un peu ça, hein, voilà. Sauf que c'est pas sur le thème de Noël. C'est un prince qui arrive à New York par un quiproquo. Il se retrouve coiffé par...
Je sais pourquoi tu veux qu'il marche.
Bah oui. Attends, je finis mon pitch d'abord. Qui se retrouve coiffé par une coiffeuse, entre guillemets, bas de gamme du Queens ou d'Harlem ou de Brooklyn, enfin voilà, d'un quartier de New York, plutôt qu'un grand salon de luxe. Et puis finalement, il l'invite dans son palais pour s'occuper du coiffeur, des coiffures de son mariage. Puis bon, vous vous doutez de la fin, hein, c'est comédie romantique Netflix, faut pas en attendre plus. Mais je veux qu'il marche parce que dedans, il y a Mena Massoud. Et ça a été mon coup de cœur depuis Aladdin. Et j'étais trop contente de le revoir dans un film. Et moi, je veux tellement qu'il interprète Ezra dans les prochaines saisons de Ahsoka ou de n'importe quoi sur Star Wars. Mais je veux qu'il soit là. J'ai pas aimé le film parce que je l'ai trouvé trop prévisible, complètement cliché. Il y a une fille qui est censée parler français, qui parle avec un accent, mais alors encore pire que l'accent de Robert Pattinson, parce que même moi je comprenais rien à ce qu'elle racontait, puis c'était même pas un accent français, enfin je comprends même pas ce qu'elle disait. Bref, le film était nul, mais Mena Massoud était bon, hein, toujours dedans, toujours en plus, toujours aussi beau. Hein, mais voilà, j'ai envie qu'il marche parce que j'ai envie de continuer à le voir lui et je me dis que si ses films marchent, ils vont continuer à l'embaucher. Voilà.
Très bien.
Donc allez le voir juste pour me faire plaisir.
Écoute, je le mettrai en fond un jour où, je sais pas, j'ai beaucoup, beaucoup de vaisselle à faire. je fais du ménage, comme ça.
Très bien, très bien. Je valide. Mais il marche en plus, enfin il marche, non, les gens le regardent, puisque j'ai vu qu'il était dans les tops de plein de films.
Mais écoute, je sais pas si...
Quand il est en top, par exemple, de plein de... Il était dans les tops de plein de pays.
D'accord, bah écoute, peut-être que je l'ai vu dans les tops, justement, mais... Ou alors Netflix se dit, non, c'est même pas la peine qu'on lui montre, même s'il est dans le top, on sait qu'elle va pas regarder, mais... Bref... Mmh. Bon, en tout cas, si vous avez Netflix, vous êtes servi là. On vous a fait quand même un bon petit menu. Hein. Pour tous les goûts et toutes les ambiances et tous les moods. Mais on a quand même quelques autres recommandations sur d'autres plateformes. Un peu random.
Pas énorme, mais.
J'aurais pu, avant de commencer, j'aurais pu faire une recommandation sur Salto, puisque j'ai fait l'essai Salto uniquement pour regarder. La célébration des 20 ans de Harry Potter, n'est-ce pas? Mais j'ai aussi regardé une mini-série, comment ça s'appelait déjà? Un English Scandal, que Hugh Grant et Ben Whishaw. C'est parce qu'il y avait Hugh Grant et Ben Whishaw hein, que j'ai regardé. Mais voilà, comme je ne conseille pas la plateforme Salto, parce que voilà, elle ne passe pas sur tous les téléviseurs. Et nous, moi, c'était un gros... une grosse frustration de voir que je pouvais pas la mettre sur le téléviseur de mes parents et puis je trouve que le service est quand même un peu limite donc je reconseille pas voilà mais bon là c'est une mini série anglaise voilà sympa sans plus mais sympa. Si vous avez Salto et que vous l'avez pas vu ça vaut probablement le coup que vous y jetez un œil.
Ok, eh bien moi je vais commencer par une série sur Prime parce que je pense que beaucoup de gens ont Prime pour avoir Amazon Prime les frais de port gratuits, tout ça. Mais du coup, vous avez quand même le droit d'avoir des séries, des films. Donc la plateforme, on en avait déjà parlé, elle est pourrie. Enfin, elle est pourrie. L'ergonomie de la plateforme est pourrie. Donc si vous voulez fouiller pour chercher des choses, c'est n'importe quoi. Mais par contre, vous pouvez taper « Cruel Summer » dans la barre de recherche et vous tombez sur cette série. Alors, de quoi ça parle? Ça se passe dans les années 90, donc c'est en 93 exactement, au Texas, dans une petite ville. Il y a Kate, une adolescente très populaire, vraiment très appréciée, vraiment la plus populaire entre guillemets de l'école, qui est kidnappée par le vice-principal du lycée de la ville. Et puis quand elle réussit à s'enfuir, elle accuse Janet, donc une autre adolescente de la ville, qui elle est devenue la fille populaire en fait à sa place. De l'avoir vue, d'avoir su qu'elle était kidnappée en fait, mais de ne pas l'avoir aidée, d'avoir prévenu personne, de juste être partie. Et du coup, bah il y a tout un procès qui se prend place, déjà contre le vice-principal. Bah non, si je crois, non, attendez, je veux plus spoiler, je sais plus ce qui se passe. Non, je spoil pas, je dis rien. Mais en tout cas, il y a un procès du coup contre Janet, et elle devient vraiment la personne à abattre, la personne la plus détestée du pays, elle tombe en dépression, enfin voilà, c'est assez horrible. Et en fait, la série va suivre l'impact de cet enlèvement sur le long terme, et elle va se concentrer sur trois années, l'été 93, 94 et 95. Et du coup, comme dans la série Toujours là pour toi, en fait, on va alterner entre ces trois étés, et c'est ça aussi que j'ai bien aimé, parce que, en fait, Janet, on la voit vraiment de trois manières totalement différentes, et elle interprète le personnage vraiment complètement différemment, puisque au tout début, en 93, elle est... complètement éteinte, enfin, mais non, pas éteinte, on va dire. Elle est pas populaire, mais elle est joyeuse, elle a ses copains, etc. Mais elle est dans l'ombre de ce groupe populaire, etc. En 94, elle a entre guillemets pris la place de Kate avec du coup elle sort avec son ex, elle a toutes ses amies qui ont changé, etc. Et puis en 95 il y a le procès, donc elle est complètement dépressive, tout le monde la déteste, voilà, c'est vraiment elle est au fond du trou. Et en fait j'ai trouvé ça captivant, totalement addictif, t'as vraiment envie de savoir la suite à chaque fois, il y a plein de rebondissements, et en fait on ne sait pas qui dit la vérité. Est-ce que c'est Kate qui est jalouse de Janet parce que justement elle a pris sa place et qu'elle ment, ou est-ce que c'est Janet qui vraiment l'a vue et ne le dit pas, jusqu'à la toute dernière seconde de la série, et à des moments on pense savoir et en fait on sait pas, il y a plein de rebondissements. J'ai vraiment adoré. Alors en cherchant cet épisode, j'ai vu que c'était renouvelé pour une saison 2, alors ça aurait pu franchement s'arrêter là, parce que y a une fin, enfin entre guillemets, voilà, ça se termine. Donc j'ai quand même hâte de voir un peu comment ça va débouler, puis quelles thématiques ils vont apporter pour la suite. Je la regarderai, c'est sûr. Mais voilà, j'ai vraiment vraiment bien aimé pour cette originalité et ce suspense jusqu'au bout.
Ça a l'air pas mal comme construction, comme narration, comme ça, ouais. Très bien. Bon, alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent, mais alors, s'ils parlent de Prime, pourquoi Marjolaine va forcément nous parler de The Wheel of Time ? Non, je n'ai pas Prime, donc je n'ai pas regardé The Wheel of Time. Je compte le voir un jour, mais plus tard, puisque je compte prendre Prime plus tard, pour une autre série qui arrivera cette année, n'est-ce pas ? Vous savez laquelle. Et puis peut-être que d'ici là, j'aurai le temps de commencer La Roue du Temps, puisque c'est une des séries de fantasy que mon père m'en a souvent parlé. Donc voilà, mais je pense que autant j'aime bien découvrir des univers par des adaptations, autant pour La Roue du Temps, d'après ce que j'ai compris, il y a des adaptations quand même un peu différentes du livre, donc je pense que j'ai envie de lire le livre d'abord. Mais voilà, c'est pour ça que on ne parle pas de The Wheel of Time, alors que tout le monde se dit « Mais voyons, c'est la nouvelle grande série de fantasy !»
Pourtant, on parle pas. C'est vrai. moi, c'est pas mon style, hein. Non. Tout est bien.
À la place, je vais vous parler d'un contenu qu'il y a sur OCS, qui un peu différent de ce qu'on a conseillé jusque-là, puisqu'il s'agit de The Art of Television, les réalisateurs de séries. Donc en fait c'est pour ceux qui comme moi sont dans la team Passion Making Of, puisque c'est en fait des petits épisodes de 25 minutes où on suit, qui sont des focus à chaque fois sur un réalisateur de série télé, et où du coup on découvre son travail et puis surtout en fait les coulisses de la création des séries, et donc comment le réalisateur il travaille, parce qu'en fait c'est un peu comme ça qu'il présente la série, c'est qu'en fait les réalisateurs dans le cas des séries c'est vraiment des personnes qui sont pas du tout mises en avant par rapport aux showrunners, par rapport aux scénaristes, etc. Surtout dans les séries américaines, le réalisateur, c'est vraiment... souvent, ça change tous les épisodes. On a chaque fois des réalisateurs différents. Du coup, c'est vraiment des exécutants, en fait. Et en tout cas, dans le cas des séries américaines, parce que du coup, dans les séries françaises ou dans les séries européennes, c'est pas du tout la même chose. Le réalisateur est vraiment au centre. Souvent, on a des showrunners qui sont réalisateurs. Enfin, on n'a pas vraiment de showrunners, en fait, en France. Enfin, bref. Vous allez découvrir tout ça en regardant The Art of Television, puisque ça permet vraiment de rentrer dans des détails très concrets de comment on prépare les épisodes. Enfin, genre, j'en ai pas encore vu beaucoup des épisodes, mais genre dans le premier, on voit le réalisateur qui nous montre carrément le livre qu'il prépare, enfin l'espèce de grand classeur qu'il prépare, et on voit tous ces petits schémas, tous ces petits trucs où il prépare comment il va filmer, etc. Et c'est très détaillé et concret, et du coup voilà, quand on aime bien rentrer comme ça dans les coulisses, pour ceux qui aiment bien ça, je trouve que c'est vraiment très 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 intéressant, quoi. Donc je vais continuer, c'est certain. Je pense que je vais découvrir plein de noms, que parce que quand on regarde la liste des noms, on se dit je connais absolument pas les noms qui sont des réalisateurs, et parce que c'est des gens, après quand on regarde, on fait ah mais il a bossé sur telle série, trop bien et tout. Donc ça permet de découvrir un peu des personnalités de l'ombre, quoi, des séries, et ouais, j'ai bien accroché, quoi. Ça, c'est ma maman qui me l'a conseillé, puisqu'elle est aussi dans la team Passion Making Of, donc, donc elle m'a dit d'aller regarder ça sur OCS, et en effet, c'est très intéressant.
Ouais, dommage, j'ai pas OCS, mais je crois qu'il... Non, il y a plus un mois, on en avait parlé, il y a plus de mois gratuits sur OCS maintenant.
Aucune idée. Faudrait tester.
Je sais plus. Je crois que la plupart, bon, à part Salto, parce qu'il faut qu'ils accueillent du monde, enfin, faut qu'ils donnent envie. Je crois que maintenant, toutes les autres plateformes ont arrêté, il me semble. Mais peut-être. Je regarderai. Pour la toute dernière série et dernier contenu dont on va parler dans ce zapping, j'en ai encore plein à parler, mais fallait se limiter. Il s'agit d'une de mes séries favorites qui est sur Canal+. Alors, j'espère que certains ont Canal+. Je pense qu'il y en a quelques-uns quand même, parce que maintenant en plus il y a un partenariat Disney+, Canal+, donc il y en a qui ont le package, donc je me dis allez pourquoi pas. Et puis en plus il y a 4 saisons. Alors il s'agit de la série Unreal.
Je
prononce très très mal.
Je crois que j'en ai entendu parler cette série.
Ah mais c'est sûr.
Ouais.
Il y a 4 saisons et il y en a 3 qui étaient sur Lifetime et il y en a une qui la dernière était sur Hulu et qui maintenant est liée à Disney+, donc je me dis peut-être qu'un jour ça va arriver sur Disney+. Enfin, il faut qu'ils rachètent les 3 premières du coup, mais pourquoi pas. C'est vraiment une de mes séries favorites de tous les temps. J'avais commencé à la regarder parce que il y a Shiri Appleby dedans, oui, c'est dit comme ça, qui jouait dans Roswell, donc qui est vraiment ma star d'enfant, où j'avais des posters partout dans Marjo peut témoigner dans ma chambre.
C'est vrai.
Ah, mais j'étais vraiment fan d'elle. Et je l'ai suivie depuis. Enfin, elle a fait des films pas terribles, hein, Swim Fan. On passera. Puis elle a fait une série géniale qui n'est sur aucune plateforme malheureusement et j'attends avec impatience, c'est Life Unexpected, que vraiment j'ai adoré, pareil, une de mes séries chouchou, mais qui n'est pas sur les plateformes. Et elle a fait Unreal, du coup, sur Canal+. Donc de quoi ça parle, et je pense que c'est peut-être là que t'en as entendu parler, en fait, c'est une série qui raconte les coulisses de la télé-réalité, de façon, du coup, romancée, hein, de façon série, mais c'est quand même pas mal... réel, quoi, entre guillemets. Donc en fait, dedans, on a une émission qui est un peu type Bachelor, voilà, et on y suit en fait tous les coulisses de tournage, et donc avec tous les drames, la manipulation pour faire de l'audience, comment ils réussissent à faire en sorte bah, que, par exemple, une fille se dévoile alors qu'en fait, il va la larguer, et qu'elle... Voilà, comment justement les réalisateurs de télé-réalité font pour manipuler les images, les personnalités, les acteurs, pour avoir ce qu'ils veulent et que ce soit plus vraiment de la réalité en fait, mais que ce soit du scénario scénarisé. Et je l'ai trouvée vraiment captivante, c'est hyper intéressant, c'est assez noir parce que du coup... Il y a même des choses assez tristes qui se passent dessus, tu vois. Et tu te demandes à chaque fois, mais jusqu'où ils vont aller? Il faut être la vie des gens quand même, c'est horrible. Et ça fait réfléchir parce que... Je pense que le monde de la télé-réalité, en France, un petit peu moins, mais il y a quand même cette visu... Enfin, il y a quand même des manipulations, des choses, on s'en rend compte. Des scènes coupées, des mots bougés qui bougent à un moment. Enfin, moi, je regarde des contenus de télé-réalité et je vois que des fois... Mais aussi parce que j'ai un recul extérieur là-dessus, mais tu vois des fois qu'il y a des témoignages où ils racontent le début d'une phrase, elle est habillée d'une manière, et la fin d'une phrase, elle est habillée d'une autre. Bah forcément ça fait réfléchir à comment ils ont tourné ça, comment ils manipulent les images. Et en fait cette série ça montre vraiment ça et je l'ai trouvé fantastique. Donc voilà, avec des super acteurs, super scénario, au top.
Ouais, je pense que j'en avais entendu parler, alors soit dans un docu, soit dans un podcast, probablement dans un podcast qui parlait de série et ça faisait partie des conseils. Et ça confirme que un jour j'aimerais bien la voir cette série, ça doit être bien.
Ben voilà, on a fait le tour.
Ouais, ben ça, y a de quoi faire, je pense.
Oui, si vous ne savez pas quoi regarder en ce moment, si vous êtes confiné parce que vous êtes positif, et ben, vous aurez du contenu.
Ça va être ça, bon, le sous-titre. On avait fait une sélection spéciale confinement. Là, c'est la sélection spéciale. Spéciale.
Isolement.
Cas contact.
Cas contact, c'est ça.
Bon, en tout cas, on espère qu'il y a eu quelques recommandations que vous ne connaissiez pas et qu'on vous a donné envie de découvrir des choses nouvelles. Ou alors qu'on a recommandé certains de vos séries ou films préférés. Donc, n'hésitez pas à nous dire ou à nous donner d'autres conseils. Hein, parce que on est toujours preneuses. Là, on s'est auto-conseillé plein de choses, mais...
Ben, j'avais posté un petit sondage sur Insta et il y a quelques films dans les recommandations qui me tentent bien. Donc ce sera l'occasion de faire un point dessus.
Très bien. Parce qu'on s'était pas donné un on devait pas faire un challenge à un moment
Si. Si si. Mais il y a eu plus, je m'attendais pas à ça, mais il y a eu plus de films demandés et je ne sais pas faire un tri, je veux pas blesser les gens. Tout le monde nous a donné des films et tout et alors il y a plusieurs films qui reviennent plusieurs fois, donc là je me suis dit bon, lui c'est bon, voilà, comme ça au moins on sait on le met. J'ai plein de personnes qui m'ont dit ce film là, tout va bien. Et puis après bah y a, ouais, donc je savais pas quoi choisir. Mais je pense que sans vouloir blesser les gens, je vais privilégier les films qui sont sur les plateformes. Je crois qu'ils n'y sont pas tous. Donc voilà, on va se lancer ce petit challenge. Je sais qu'on commence en février, mais c'est pas grave.
Bon, pour 12 regarder,
films jusqu'à voilà, la fin de l'année.
Ça va, c'est ça, 12 films puis pour faire un bilan à la fin de l'année. Ça pourrait être...
Exactement. Bien. Donc venez nous suivre sur Instagram, @poptepodcast, ou sur Twitter, même si on poste pas grand-chose. Si, j'ai posté un peu hier. Non, on est surtout présente sur Insta, mais on poste pas énormément non plus, mais ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, donc continuez comme ça.
Oui, puis de temps en temps, vous pouvez choisir nos sorties cinéma, hein, quand on ne sait pas quoi, comment choisir. donc ouais, c'est la bonne plateforme pour nous suivre.
Et puis bah on vous dit à bientôt sur un prochain épisode sur une série dont on n'a pas parlé ici mais qu'on recommande à 100%.
Hihi. Eh bien à très vite.
Bye. Bye.